VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, est en visite au Sénégal, première étape de sa tournée africaine. Au Burkina Faso, au moins 18 civils, dont 16 supplétifs de l'armée, ont été tués hier lors de deux attaques de djihadistes présumés dans le nord et le nord-ouest. Un journaliste rwandais critique du régime du président Paul Kagame est mort mercredi dans un accident de la route. Human Rights Watch évoque des circonstances suspectes et demande une enquête. Après sa visite en Californie, le président Joe Biden met en garde contre le changement climatique. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. La secrétaire américaine au Trésor est à Dakar, première étape d'une tournée africaine de 11 jours qui l'amènera ensuite en Zambie et en Afrique du Sud. Dans la capitale sénégalaise, elle a vanté les mérites d'une nouvelle stratégie économique américaine mutuellement bénéfique. Nous faisons le point avec Abdourahmane Dia.
Notre engagement n'est pas transactionnel, ce n'est pas pour le spectacle et ce n'est pas à court terme. En tenant ses propos devant des jeunes et des femmes entrepreneurs, Janet Yellen a voulu partager sa vision d'un partenariat commercial gagnant-gagnant entre l'Afrique et les États-Unis. Elle s'est aussi appesantie sur les investissements américains sur le continent à travers le Millennium Challenge Corporation et d'autres programmes. L'Afrique continue d'être le plus jeune continent du monde. Ici au Sénégal, l'âge moyen est de 19 ans. 1,7 million d'Africains entrent désormais sur le marché du travail chaque mois, a déclaré Janet Yellen. Et pour elle, il s'agit d'une opportunité pour le continent. Janet Yellen doit rencontrer ce soir le président sénégalais Macky Sall lors d'un dîner. Janet Yellen fera également une escale en Zambie. La dernière étape de sa tournée sera l'Afrique du Sud, où elle visitera une usine d'assemblage de la marque américaine Ford pour présenter des exemples réussis de relations économiques entre les États-Unis et l'Afrique.
Toujours au Sénégal, le président Macky Sall a reçu la chef de l'extrême droite française, Marine Le Pen, qui effectue une visite de 3 jours. Cette rencontre à huis clos a duré près d'une heure et s'est déroulée au palais présidentiel de Dakar. Elle a notamment permis d'échanger sur l'idée défendue par Marine Le Pen d'un siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU, a affirmé son entourage. Une double attaque jeudi dans le nord et le nord-ouest du Burkina Faso a fait 18 morts, dont 16 VDP, volontaires pour la défense de la patrie. Plus de précisions avec Timothée Donangmaï.
La première attaque a visé un poste avancé des VDP à Rakoetenga, une ville de la province septentrionale de Bam. Elle a fait 7 morts, 6 VDP et une femme ainsi qu'une dizaine de blessés. La seconde attaque, survenue dans la province de Nayala, dans le nord-ouest, a pris pour cible un convoi escorté par des VDP et des militaires. Le bilan ici est d'une dizaine de VDP et un civil tué, ainsi qu'une dizaine de blessés, dont certains ont été évacués vers Ouagadougou. Des sources sécuritaires parlent de 2 attaques djihadistes sans bilan précis. La semaine dernière, des djihadistes présumés ont enlevé une 60aine de femmes ainsi que des bébés près d'Arbinda dans le nord du Burkina. La situation continue de se détériorer dans cette région au plan sécuritaire. Le pays est confronté depuis 2015 aux attaques des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Celles-ci ont fait des milliers de morts et au moins 2 millions de déplacés.
Toujours au Burkina Faso, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Ouagadougou sur la place de la Nation pour demander le départ de l'ambassadeur de France et la fermeture de la base de l'armée française à Camboisin, en périphérie nord de la capitale où sont stationnées 400 forces spéciales françaises. Le collectif des leaders panafricains qui regroupe des organisations favorables au capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir depuis fin septembre avait appelé à cette manifestation contre la présence française. En Somalie, 7 soldats ont été tués dans une attaque contre la base militaire à Galkad, ville située à environ 375 km au nord de la capitale Mogadiscio. La ville a été récemment reprise par les forces pro-gouvernementales et les combats ont été très violents selon le gouvernement qui évoque une 100aine de morts du côté des Chebabs. Au Rwanda, un célèbre journaliste critique du régime du président Paul Kagame est mort mercredi dans un accident de la route. L'annonce a été faite ce vendredi par son journal The Chronicles. L'ONG Human Rights Watch évoque des circonstances suspectes. Mohamedou Mfa.
John Williams Twali, 44 ans, rédacteur en chef du journal The Chronicles, est mort mercredi. Un véhicule a percuté la moto sur laquelle il se trouvait en tant que passager. Twali est décédé à 2h50 du matin à Kimihurura, à proximité de la capitale Kigali, a écrit The Chronicles sur Twitter. Twali était le passager de la moto. Il est mort instantanément, a poursuivi le journal. Selon la police, le conducteur du véhicule a été arrêté et placé en garde à vue. John Williams Twali a été un rare journaliste qui a osé faire des reportages sur la persécution politique. Il rejoint une longue liste de personnes qui ont défié le régime Kagame et sont mortes dans des conditions suspectes, selon Lewis Mudie, directeur pour l'Afrique centrale de Human Rights Watch. Il demande une enquête rapide et efficace, s'appuyant sur une expertise internationale pour déterminer s'il a été assassiné ou non. Au cours de sa carrière, Twali a été placé plusieurs fois derrière les barreaux. Il avait fondé également la chaîne Pax TV sur YouTube, diffusant majoritairement en langue Kinyarwanda des interviews de dissidents rwandais.
Le ministre gabonais des Affaires étrangères, Michel Moussa Adamo, est décédé vendredi à Libreville après avoir fait un malaise cardiaque lors d'un conseil des ministres. Très proche du président Ali Bongo Ondimba, Michel Moussa Adamo avait été ambassadeur du Gabon pendant 10 ans aux États-Unis. Il avait été nommé ministre de la Défense en juillet 2020, puis des Affaires étrangères en mars 2022.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La coalition d'une cinquantaine de pays soutenant l'Ukraine s'est réunie aujourd'hui sur la base militaire de Ramstein en Allemagne pour discuter de nouvelles promesses d'armement supplémentaires. Kiev réclame des armes plus lourdes et des missiles de longue portée. Le point avec Idriss Fall.
L'hôte de la réunion, le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a exhorté les représentants des 50 pays à creuser encore plus profond pour soutenir l'Ukraine en ce moment crucial. S'adressant par vidéo à la conférence, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a plaidé pour disposer des puissants chars Léopard allemands, mais le tout nouveau ministre allemand de la défense, Boris Pistorius, a déclaré que pour le moment, aucune décision n'a encore été prise. Le Pentagone a offert 2,5 milliards de dollars de fournitures, mais cette aide ne comprend pas les missiles à longue portée réclamés par l'Ukraine. Les alliés craignent que ces armes à longue portée ne soient utilisées pour frapper le territoire russe ou la Crimée annexée par Moscou, même si Kiev a promis qu'elle ne le ferait pas. Pour sa part, la Russie a de nouveau mis en garde contre le risque d'escalade. L'Occident se fait une illusion dramatique en pensant que l'Ukraine peut gagner sur le champ de bataille, a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, ajoutant que le conflit se développe dans une spirale ascendante et dangereuse.
En Ukraine, les autorités d'occupation russes ont dit noter ce vendredi une forte hausse de l'intensité des combats dans la région de Zaporizhia, dans le sud, où des affrontements ont lieu sur toute la ligne de front. L'armée ukrainienne a pour sa part évoqué une situation assez difficile, mais qui se stabilise sur le front dans le sud. Les États-Unis et les Philippines se sont engagés aujourd'hui à renforcer leur coopération en matière de sécurité, en particulier concernant les tensions avec Pékin sur la mer de Chine méridionale. Manille a accueilli une rencontre de haut niveau avec son principal allié en matière de défense dans le cadre des efforts déployés par le président Ferdinand Marcos pour rétablir un partenariat de 7 décennies rompu par son prédécesseur Rodrigo Duterte. Réunis au forum de Davos, plusieurs participants ont souligné les bons signaux envoyés par l'économie mondiale ces dernières semaines, notamment la directrice du FMI. L'institution de Washington prévoit 2,7% de croissance cette année et va dévoiler de nouvelles prévisions d'ici quelques jours, après la crainte d'un hiver difficile en raison de la crise énergétique. Mais une météo clémente en Europe éloigne les risques de rupture d'approvisionnement en gaz et en électricité. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
En Côte d'Ivoire, la conférence sur l'investissement touristique et hôtelier en Afrique francophone s'est tenue hier à Abidjan. Les professionnels ont mis l'accent sur le rôle du tourisme en tant que vecteur de développement local, ainsi que l'amélioration et le financement des infrastructures et la formation des jeunes. Le pays compte créer de nombreux emplois dans le cadre de son projet Sublime Côte d'Ivoire. Au Cameroun, l'entreprise d'électricité Eneo a annoncé qu'elle va investir 65 milliards de francs CFA en 2023. Ce sera notamment dans l'amélioration de l'accueil des clients et le branchement de plus de personnes dans les délais. Eneo affirme avoir converti plus de 86 000 illégaux en clients au cours de l'exercice précédent. L'entreprise précise aussi avoir normalisé plus de 65 000 installations défectueuses et intensifié ses opérations contre la fraude. Le Fonds mondial pour la nature a proposé à la Zambie un échange dette nature dans le cadre de la restructuration de 13 milliards de dollars de dette. Il s'agit pour le pays d'échanger une partie de sa dette extérieure contre des investissements dans des mesures de protection de l'environnement. La dette de la Zambie représente 120% de son produit intérieur brut.
À présent, la page des sports avec Timothée Donangma. Et bonsoir Tim.
Bonsoir Claire.
Le championnat Afrique des Nations Total Energy Algérie 2022 se poursuit ce soir avec deux matchs au stade olympique d'Oran.
Et oui, la première rencontre oppose l'Angola à la Mauritanie. Les Mauritaniens s'efforcent d'effectuer une bonne entrée en compétition. Quant à l'Angola, il tente de faire mieux après son nul de la première journée contre le Mali. On est à la 84e minute. Le score est de 0 but partout.
Le second match de ce soir opposera le Congo au Niger à partir de 19h TU.
Défait par les Camerounais 1-0 lors de leur premier match, les jeunes Congolais ne perdent pas espoir. Leur coach Jean-Élie Ngoya Obakas espère un rebond face au Niger. Les jeunes Nigériens qui font leur entrée en compétition ont conscience des attentes de leurs fans et tenteront de saisir leur chance.
Dans l'unique match d'hier, le Ghana est venu à bout du Soudan 3-1.
Les Soudanais avaient pourtant ouvert le score à la 31e minute par Al Ghazouli Nou. Les Ghanéens rétablissent l'équilibre par Konadou Yadom à la 48e minute, puis se sont imposés sur le score de 3-1 grâce au but de Daniel Barnier et Seydou Souraj. Ils ont fini la partie à 10 après expulsion sur faute flagrante de Daniel Barnier. Madagascar occupe la tête du groupe avec 6 points. Le Soudan et le Ghana ont 3 points chacun.
Le tournoi se poursuit demain avec les matchs Libye-Éthiopie et Mozambique-Algérie.
L'Algérie est déjà qualifiée pour la phase suivante dans ce groupe avec 6 points et la Libye est pratiquement éliminée avec 0 point en 2 matchs. C'est donc le Mozambique et l'Éthiopie qui vont se livrer un duel à distance. Les Mozambicains qui ont 4 points se contenteraient volontiers d'un nul, tandis que les Éthiopiens avec un seul point doivent absolument gagner pour s'offrir une petite chance d'avancer.
C'est officiel, l'attaquant néerlandais Memphis Depay de Barcelone est désormais de l'Atlético Madrid.
Les deux clubs ont confirmé son transfert pour le reste de la saison et deux saisons supplémentaires jusqu'à 2025. Avant cette annonce, le joueur de 28 ans s'était entraîné hier avec son nouveau club.
Et puis pour finir, pour sa part, l'ailier ukrainien Mykhailo Mudryk, j'espère que je prononce bien, transféré à Chelsea, pourrait faire ses débuts samedi contre Liverpool.
Et tout à fait clair, Chelsea a déboursé 100 millions d'euros pour acquérir Mudryk du Shakhtar Donetsk. Le joueur de 28 ans a été courtisé par beaucoup de clubs, notamment Arsenal en Premier League anglaise.
Merci beaucoup, Tim.
Il n'y a pas de quoi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui, Claire Morin-Gibourg toujours avec vous, place au dossier du jour. Le président Joe Biden a réitéré hier ses mises en garde contre le changement climatique et promis une aide fédérale à la Californie qui a subi une série de tempêtes et d'inondations ravageuses. Ses critiques disent qu'il n'en fait pas assez et les partisans de sa politique sur le climat font remarquer que le changement ne se fera pas en un jour. Le reportage d'Anita Powell, le récit avec Mohamed Oumfa.
Selon le président Joe Biden, un ciel gris et orageux sur le Golden State est le dernier exemple des effets du changement climatique.
Le temps extrême causé par le changement climatique signifie des tempêtes plus fortes et plus fréquentes.
Le président américain s'est rendu en Californie jeudi pour évaluer les dégâts causés par les récentes tempêtes et promettre une aide fédérale.
Nous devons investir dans des infrastructures plus solides pour atténuer l'impact de ces catastrophes, car celles-ci ont un effet cumulatif. Nous avons déjà alloué des fonds dans le cadre de la loi sur les infrastructures que j'ai signée il y a un an.
Monsieur Biden affirme avoir fait d'autres progrès dans la lutte contre le changement climatique avec la loi sur la réduction de l'inflation qui alloue près de 400 milliards de dollars de fonds fédéraux aux énergies propres dans le but de respecter l'engagement pris par les États-Unis dans le cadre de l'accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement de la planète à moins de 2 degrés Celsius. Le chef de l'exécutif américain a aussi encouragé l'innovation dans le domaine des énergies propres afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Sherry Goodman, spécialiste du climat au Wilson Center, estime que le gouvernement américain considère depuis longtemps le changement climatique comme une menace.
Nous devons le comprendre en termes de risques composés et en cascade. Les tempêtes alimentées par les feux de forêt ont alors un impact par la suite sur la série d'événements climatiques extrêmes, ces rivières atmosphériques, et ils interagissent tous.
Selon elle, le fardeau doit être partagé entre le gouvernement et le secteur privé. Ce message a été également transmis au Forum économique de Davos par John Kerry, le principal envoyé du président américain pour le climat. John Scott, responsable des risques au sein du groupe Zurich Insurance.
La résolution du changement climatique est, en quelque sorte, le sport d'équipe par excellence. Elle n'est pas le fait d'un seul secteur et doit être le fait des gouvernements. Il faut que les entreprises et le secteur financier travaillent ensemble pour résoudre ces problèmes complexes et systémiques.
Et selon Sherry Goodman du Wilson Center, le changement ne se fera pas du jour au lendemain.
Nous ne pouvons pas simplement nous passer des combustibles fossiles. Nous allons utiliser du pétrole et du gaz pendant un certain temps encore.
Mais les critiques disent que les dirigeants doivent être plus agressifs, surtout lorsqu'il s'agit d'affronter les industries polluantes. Cassie Siegel dirige le Centre pour la biodiversité.
Nous ne pouvons pas résoudre ce problème sans une action gouvernementale forte. Et cela doit commencer par une confrontation avec des entreprises de combustibles fossiles qui sont au cœur du problème et qui ont cherché à distraire, nier et retarder depuis si longtemps.
Et certains des adversaires politiques de M. Biden, même certains de ses collègues démocrates, ont freiné l'adoption de lois plus radicales, arguant que ces industries créent de précieux emplois. Alors, Biden en fait-il trop ou pas assez? Seul le temps et les températures permettront de juger.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Début ce vendredi de la tournée africaine de la secrétaire américaine qui arrive aujourd'hui à Dakar. Il s'agit d'une rare visite d'un ministre américain de l'économie sur le continent et qui s'inscrit dans le sillage du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique à la mi-décembre.
Washington a annoncé à cette occasion des investissements de l'ordre de 15 milliards de dollars en Afrique. Sur l'importance de l'étape dakaroise de Janet Yellen et les enjeux de cette tournée africaine, Abdourahmane Dia a joint dans la capitale sénégalaise l'analyste politique Ibrahima Kan.
Parce que le président de la République du Sénégal est président en exercice de l'Union africaine et que au mois de décembre dernier, il y a eu un sommet Union africaine et États-Unis. Ensuite, le Sénégal est quand même bien vu au plan diplomatique, a de très bonnes relations avec les États-Unis et une cinquantaine d'entreprises américaines sont aussi établies au Sénégal. Et c'est le canal par lequel les États-Unis veulent renouer avec le continent africain.
Et d'ailleurs, Yellen a prononcé un discours devant des jeunes entrepreneurs et des femmes entrepreneurs en mettant l'accent sur le fait que l'écrasante majorité de la population est jeune en Afrique. Est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui remettent un peu en cause les relations entre l'Afrique et l'Occident que Mme Yellen a tenu à rencontrer ces jeunes-là d'abord?
Bon, je pense que oui, les jeunes sont le futur de l'Afrique. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais je pense que l'un des objectifs de cette présence américaine aujourd'hui en Afrique, c'est aussi pour contrecarrer ce qu'on pourrait appeler la mainmise chinoise sur l'économie et les relations de manière générale avec le continent.
Et justement, sa visite intervient dans ce contexte de compétition avec la Chine sur le plan économique et la Russie un peu sur le plan sécuritaire. Comment est-ce que l'Afrique peut tirer son épingle du jeu de tout cela?
En Afrique, on est 55 pays. On est la première puissance, en tout cas le premier groupe régional au niveau des Nations Unies. Et maintenant, on veut faire, en tant que continent, jouer ce poids démographique, ce poids politique dans les relations internationales. Et la crise que vous avez mentionnée entre l'Ukraine et la Russie a été la première occasion pour les États africains de montrer que, un, ce n'était pas leur guerre, et que, deux, ils envisageaient dans ce monde multilatéral, le nouveau monde à venir, qu'ils entendaient pleinement jouer un rôle important dans les relations internationales. Et je pense que les États-Unis l'ont si bien compris qu'ils ont décidé maintenant de faire les bouchées doubles pour venir en Afrique, essayer de nouer de nouvelles relations avec les Africains, demander à ce que l'Afrique intègre le G21.
C'était l'analyste politique Ibrahima Kan.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le gouvernement camerounais a déployé des troupes dans un village situé à la frontière avec le Nigeria. Des affrontements entre des séparatistes camerounais et des éleveurs nigérians ont fait au moins 12 morts. Des éleveurs qui avaient traversé la frontière à la recherche de nourriture pour leur bétail ont refusé de payer les taxes exigées par les rebelles. Reportage depuis Maroua de Moki Edwin Kinzeka, récit Rosine Mounezero.
L'armée camerounaise affirme avoir déployé au moins une centaine de soldats à Gayama, un village à la frontière avec le Nigeria, après des affrontements entre séparatistes et éleveurs nigérians. Abdoulaye Aliou est responsable du gouvernement à Manchoum, l'unité administrative en charge de Gayama. Selon M. Aliou, les combats ont éclaté il y a 6 jours lorsque des séparatistes ont arrêté des éleveurs nigérians qui avaient traversé la frontière à la recherche de pâturage pour leur bétail et leur ont ordonné de payer une taxe.
Ils ont croisé les séparatistes qui faisaient leur lit dans la zone et ont exigé des taxes à ces éleveurs. Devant donc le refus, il y a donc eu échauffourée et finalement les séparatistes ont assassiné 2 éleveurs.
Les autorités affirment qu'au moins 20 civils ont été blessés. L'église catholique romaine de Manchoum affirme que de nombreux civils ont fui pour éviter d'être pris entre 2 feux. Le gouverneur de la région du nord-ouest du Cameroun, Deben Tchofo, affirme que les civils ne doivent pas craindre les militaires. S'exprimant au téléphone depuis Bamenda, il déclare que les villageois devraient aider les troupes en dénonçant les rebelles qui se cachent dans leur communauté.
L'avenir est prometteur, à condition que nous soyons unis contre les agents du chaos qui tentent de détourner nos jeunes. Les forces armées se rapprochent de la population. C'est la raison pour laquelle, par rapport à l'année dernière, les choses deviennent de plus en plus normales dans la région du Nord-Ouest, même si nous avons encore quelques points chauds.
Sur les médias sociaux, les séparatistes ont reconnu qu'ils affrontaient les éleveurs nigérians qui, selon eux, doivent respecter leurs ordres. En juin dernier, des villageois de la ville d'Akwaya, dans l'ouest du pays, ont déclaré que des hommes armés soupçonnés d'être des rebelles ont mené une série d'attaques qui ont tué au moins 30 personnes, dont 5 marchands nigérians. Selon l'ONU, le conflit depuis 2017 a fait plus de 3500 morts et 750 000 déplacés.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Anado Kabika est une mannequin congolaise qui s'est fait un nom dans le milieu de la mode à New York avant de se lancer dans la chanson. Issue d'une famille polygame de 18 enfants, elle a toujours lutté au sein de son entourage pour affirmer ses choix personnels, pour tracer sa propre carrière. Ce vendredi marque la sortie de son premier single. Au micro de Nathalie Barge et en exclusivité sur la VOA, Anado Kabika s'exprime.
Tout a d'abord commencé quand j'avais l'âge de 8 ans. Je jouais au foot, je suis née avec le talent du football. Et malheureusement, ma famille m'ont pas accompagnée pour que ça devienne professionnel. Et jusqu'à ce que j'ai commencé à danser, je crois que c'est à l'âge de 11 ans, 12 ans, quelque chose comme ça, je dansais. C'était aussi compliqué pour la danse. Et jusqu'à ce qu'ils m'ont encore interdit de danser, puisqu'il y avait beaucoup de choses qui venaient dans la danse. Et à l'époque, j'avais aussi plusieurs insécurités de mon corps. Les gens se foquaient de moi. Et c'est de là que je me suis décidée, non, pourquoi ne pas être mannequin? Et c'est de là que la mode a commencé. J'ai commencé à défiler, c'était trop difficile aussi avec ma famille, tout ce que je faisais, ils refusaient. Et j'ai tellement insisté, on m'a frappé, ils se sont battus jusqu'à ce que j'ai vraiment commencé avec le mannequinat au Congo. J'ai participé dans 3 compétitions dans mon pays, j'étais première dauphine et la dernière compétition c'était en 2016, je fus première dauphine Miss Congo. Après la première compétition que j'avais participé, ça m'a emmenée au Japon, j'ai défilé dans plusieurs pays et jusqu'à ce que je me retrouve aujourd'hui aux États-Unis en continuant la mode et je fais aussi la musique. Anado. Vraiment, la musique, j'ai eu le coup de cœur, c'était en 2018. C'est là où j'ai commencé avec mon premier enregistrement. Et avec le premier single que j'ai sorti, c'était au mois de décembre. Mais malheureusement, je pouvais pas promouvoir puisque c'était juste à l'époque que je puisse venir aux États-Unis. C'était l'année en 2019. Donc, j'avais que un mois pour la promotion locale, mais c'était trop dur. Mais sinon, la musique, j'ai toujours été passionnée de la musique. Mon oncle, mon défunt oncle, il s'appelle Kenke Sereminia. Donc, tout a commencé par lui et jusqu'à ce que même sa musique aussi aille briller la famille. En même temps, je suis trop fan de la musique, je suis trop fan des lyrics, surtout que j'ai trop d'inspiration et je me suis dit pourquoi ne pas pour montrer au monde mes inspirations, les émotions et au lieu d'écrire des livres, pourquoi ne pas chanter. Le titre de la chanson, c'est Give Me Your Love. Give Me Your Love, je suis en train de parler d'une femme qui a tout donné, qui donne son amour, mais malheureusement, son homme ou son mari ne l'aime pas. Donc j'ai tout donné, tout ce que l'homme m'a demandé. Je sais pas s'il y a plusieurs sortes d'amour, mais malheureusement, l'amour que je suis en train de donner à mon homme, je le pas en retour. Et je me plains, je dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je sais pas qu'est-ce qu'il faut créer ou inventer pour que l'homme puisse m'aimer. Le but était de sortir un album. Comme ça fait un peu longtemps, mon équipe de production a décidé de ne pas sortir l'album, de commencer par le single. Mais le projet de l'album, nous sommes presque prêts. C'est l'album de 12 chansons. Si on décidait un jour de rajouter encore d'autres chansons, comme c'est encore dans le laboratoire, on va le faire. Mon style, c'est du afrobeat, afropop, un peu de la rumba. Je garde toujours un peu mes origines de mon pays. Donc c'est un peu le mixage, ce métissage de tout.
Anado Kabika, mannequin et chanteuse congolaise, résidente à New York. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui ont permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.